Comme prévu, on va commencer par le Perek. Vous avez la Gemara Sanhedrin, elle est d'Af Tzadik, page 90, c'est le dernier Perek de Sanhedrin. Kol Israël, yesh lehem chelek l'olam haba. Tous les Juifs, ils ont une part dans le monde futur. Ça veut dire quoi une part? Un morceau. Ça veut dire quoi un morceau? Ils n'ont pas tous les Olam Haba, seulement une part. Bon, ça veut dire quoi tout le Olam Haba? Tout le Olam Haba, il est pour tout le monde. S'il y en a 1 million, s'il y a 1 milliard, il y a un Olam Haba. Ça veut dire quoi il a une part? Ça veut dire quoi? Une part de quoi? Une part de tout. Évidemment. Ça suffit de dire Kol Yisrael Yeishlehem. Alors pourquoi il n'est pas marqué simplement Kol Yisrael Yeishlehem Olam Haba? Tous les Juifs ils ont Olam Haba. Voilà, tous les Juifs ils ont Olam Haba. Pourquoi il faut ajouter le mot Chelek? Pour dire qu'ils n'ont pas tous les Olam Haba. Mais tous les Olam Haba, ça veut dire quoi? Chacun il peut avoir tout le Olam Haba. Le Olam Haba il est pour tout le monde. Donc, la Mishnah veut nous faire une allusion. Il a un chélek de ce qui lui est promis. Un grand chélek ou un petit chélek ou tout. Il y a quelque chose qui s'appelle dans Chazal Ben Olam Haba. Harehu Ben Olam Haba. Ou Mezuman Lechay Olam Haba. Ah, tu veux faire la Gemara, tu veux l'imprimer. Ah. Ben Olam Haba veut dire. Ben Olam Haba, ça veut dire que l'homme, il a vraiment, il a tout. Il a tout son Olam Haba. Alors, l'homme qui est Tzadik Gamour et qui a fait tout ce qu'il doit faire, eh ben, il a tout son Olam Haba. Il a le maximum. Maintenant, un homme qui n'arrive pas au maximum, il a fait la moitié de ce qu'il doit faire. Bon, il reçoit la moitié. Ça existe la moitié. Alors, si maintenant un juif a ce métier rachat, il a fait des averot, mais il a fait des mitzvot aussi. Ah ben, son Olam Haba, il est diminué, mais il a quand même. Il a quand même Olam Haba. Ça, c'est le sens qu'on Israël Yeshlem Chelek. Un Chelek, tout le monde, il a un Chelek. Le Chelek, il est grand ou il est petit, mais il a un Chelek. Alors, pourquoi la Mishnah nous dit ça dans Masechet Sanhedrin? Le Chora, Masechet Sanhedrin parle de quoi? Il parle de la justice, des jugements. Depuis le début de la Maseret jusqu'à ici, on parle de quelqu'un qui a fait une faute et qu'il est hors jeu, il est hors loi, un homme qui s'est mis hors loi. On l'attrape à la justice. Alors, dans la justice, il y a des fois de l'argent, des fois il y a malkout, et des fois il y a condamnation à mort. Il y a la justice dans le peuple juif. Alors, il y a toutes sortes de péchés, des petits, des grands, des petites punitions, des grandes punitions. Et on nous dit, ça c'est lui, il est chayav malkout, lui doit payer, lui, il est chayav sekila, serifa, herek, renek. Dans Masechet Sanhedrin, la Mishnah, elle a abordé, la Gemara, elle a abordé tous les pécheurs, tous les cas, quelles sont les punitions qu'ils vont recevoir par le Bedin. Maintenant, la Mishnah, elle a gardé, donc, la Masechet, elle a gardé le dernier perek pour aborder le cas. Qu'est-ce qui se passe dans l'autre monde? Alors, dans ce monde, voilà, on a fait, la justice est passée sur lui et il a payé ce qu'il devait payer. Maintenant, il arrive dans l'autre monde. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il arrive dans l'autre monde. Alors, s'il a eu complètement l'accaparat dans ce monde, alors c'est très bien. Il a eu l'accaparat, il est tzaddik gamour, ce qu'il a fauté, il a tout payé. Eh bien, il a son Olam Haba, parfait, il n'y a pas de problème. Ce que la Mishnah veut nous enseigner, c'est qu'est-ce qu'on fait quelqu'un qui n'est pas tzaddik gamour? Qu'est-ce qu'on fait quelqu'un qui a fait des averot, il a eu une kapara, mais que la moitié de la kapara. Il arrive dans l'autre monde, mais il n'est pas entièrement. La Mishnah nous dit, il a quand même. Paul, Israël, Israël, Klamaba, tout ce qui est énuméré avant, il a volé. Même si Hachem l'a tué, même s'il a fait Avodah Zarah, même s'il a fait Hachem qui l'a rayot, même les pires des choses, il a payé dans ce monde, soit que le Bedin est passé sur lui, soit soit, même si le bête ne l'a pas attrapé, j'ai un peu donné des issourim, mais d'autres choses, il a payé, tous les juifs, ils ont l'amaba, kol Israël. Kol, ça veut dire que ce sera les tzadikim complets, les tzadikim entiers, que ce sera moins des tzadikim, il manque un peu, ou il manque un peu beaucoup, ils ont fait des averot, comme, quand même, yeshlem chelek, il a un chelek, ou trois quarts, ou tout, ou trois quarts, ou un quart, ou un dixième de ce qu'il aurait pu faire, mais il aura son lamaba. Ce n'est pas car la pasouk il dit, Va'amech kulam tzadikim. Ton peuple est kulam tzadikim. Ils sont tous tzadikim. Tzadikim dans le sens, Dieu va les justifier à la fin. Il va dire, c'est bon, tu es tzadik. Ça y est, c'est bon. Tu peux rentrer. Le olam yirshu aretz. Pour l'éternité, ils vont hériter la terre. Donc, cette terre, bien sûr, c'est la terre éternelle. Le olam haba. La terre éternelle, netzer mata'ai, netzer, ça poussait, mata'ai de ma plante, plantation. Dieu, il a planté. Il a planté quoi? Il a planté Abraham, Israël et Yaakov. C'est le tronc. Et sur ce tronc, il pousse des branches, il pousse des fruits, des grandes branches, des petites branches. Tous les juifs, chaque juif, il fait partie de ces plantes d'Abraham Israël Yaakov. Netzer Mataï, de ce que j'ai planté chez Abraham Israël Yaakov, ça poussait. Mas Yadai, c'est l'action de mes mains, les Hitpaer, je vais me glorifier avec le peuple juif. Donc ça, c'est pour tout le monde. Ve'eilu She'en Lahem Chelek L'Olam Haba. Maintenant, la Mishnah nous avertit, et voici, maintenant, il arrive des individus qui ont perdu leur part de le monde futur. Ça veut dire des choses qui sont plus graves que ce qui est cité avant dans la Maseret. Dans la Maseret, on parle de toutes sortes de péchés qui existent, mais tous ces péchés n'empêchent pas d'arriver au Lamaba. Mais il y a des choses qui empêchent d'arriver au Lamaba. S'il n'a pas eu de capara, bien sûr. Si on a fait tchouva, on peut faire même les péchés qui vont venir maintenant. Si me l'ont mis fait tchouva, bien sûr, c'est autre chose. C'est-à-dire des péchés qui sont plus graves que ça. À Omer, un homme qui dit « Ein tchiyat amitim min haTorah ». La tchiyat amitim ne vient pas de la Torah. Ça veut dire quoi? Il ne vient pas de la Torah. La traduction, la première traduction est « Elle n'existait pas dans la Torah ». Torah, c'est-à-dire dans le judaïsme. Le judaïsme n'a jamais promis Olam Haba. Le judaïsme, c'est une religion qui a promis Olam Hazé. Si on fait des mitzvot, il y aura la pluie, il y aura la santé, il y a la richesse, il y a de l'honneur. C'est marqué dans la Torah beaucoup de fois. Si vous faites les mitzvot, je donnerai la pluie à leur temps et vous allez vivre en paix. Oui, la Torah, elle a promis beaucoup de choses. De l'autre monde, la Torah n'a pas promis. Le judaïsme ne connaît pas Olam Haba. Un homme qui dit ce genre de philosophie, il n'aura pas d'Olam Haba. Il ne fera pas partie d'Olam Haba. Pourquoi? Bon, Pshat Pashut, parce qu'il n'y croit pas. Si tu n'y crois pas, eh bien, tu n'auras pas. Si quelqu'un il travaille chez quelqu'un, et on lui dit, tu travailles pour avoir un salaire à la fin du mois ou pas? Il dit, mais non, il n'y a pas de salaire. Vous croyez que le patron va donner un salaire? Mais non, il ne donnera pas de salaire. Alors pourquoi tu travailles? Eh bon, je suis obligé, tout le monde travaille, je suis obligé de travailler, je travaille. Mais je sais très bien que je n'aurai pas... Ah, c'est arrivé ici la page. Mais je sais très bien que quoi? Que je n'aurai pas d'Olam Haba. Eh bien, il n'aura pas. Il faut comprendre ça. Ça veut dire quoi? Un homme qui travaille pour un patron, il pense qu'il n'a pas de salaire. Il ne mérite pas de salaire. Et pourquoi il ne mériterait pas de salaire? Ça veut dire quoi? Le contraire. Je pensais, il m'a obligé de travailler. Il m'a dit, si tu ne travailles pas, je te frappe. Alors, je travaille. Ça va. J'ai bien travaillé comme tout le monde. À la fin du mois, le patron, il dit, les ouvriers disent, tu sais, tu peux recevoir un salaire? Ah bon, c'est vrai? Je ne savais pas. Vas-y. Et je vais aller chez lui. Qu'est-ce qu'il va dire le patron? Ah non, monsieur, vous avez pensé qu'il n'y a pas de salaire. Eh bien, vous n'aurez pas. Attendez, j'ai travaillé comme les autres. Oui, mais vous avez cru qu'il n'y a pas de salaire. Bon, je suis trompé. Et alors, en quoi c'est une raison que vous ne me donnez pas? Non, vous n'avez pas cru, je ne vous donne pas. Ça manque de sens. Ça manque de sens. Bien sûr, ce n'est pas ça le sens. Le sens, ce n'est pas un homme qui ne savait pas qu'il n'y a pas de salaire. Pas savoir, ça ne diminue en rien. C'est un homme qui a une philosophie et que d'ailleurs il publie et qui accuse Dieu. Je sais que tu ne donnes pas d'Olam Haba. Tu ne donnes pas. Et il le dit aux gens aussi. Il dit aux gens, le judaïsme n'a jamais parlé du monde futur. Ça n'existe pas. Mais il pense vraiment comme ça? Est-ce qu'il pense parce qu'il n'est pas au courant? Ou il est au courant que tous les juifs, ils disent que oui? Et lui, il contredit. Si il n'a jamais rencontré un juif qui lui dit qu'il y a Olam Haba, ou il a rencontré un juif simple qui dit qu'il y a Olam Haba, mais lui, il dit, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne connais pas assez le judaïsme pour savoir s'il y a Olam Haba. Il ne connaît pas ce patron s'il paye quelque chose, le salaire, à la fin du mois. Alors, dans ces cas-là, en quoi c'est une raison de ne pas lui donner le salaire? Ce n'est pas ça le cas. Le cas, c'est qu'un juif qui a entendu que tous les juifs lui disent qu'il y a Olam Haba. Tous les juifs, du petit au grand, tout le monde, il sait qu'il y a Olam Haba. Qui a dit à tous les juifs? Bon, on l'a toujours transmis comme ça à tous nos parents, de génération en génération, et tous les rabbanim, et tous les chachamim, tous les gens qui savent qu'est-ce que c'est le judaïsme. On a toujours entendu. De qui vous avez entendu? De tous les sages, puis de Moshe Rabbeinu, on a entendu qu'il y a le monde futur. Maintenant, il s'agit d'un homme qui dit non, tout ça c'est faux. Moi, je dis que vous vous trompez tous. Mais en quoi ça vous gêne, monsieur? En quoi ça vous gêne? Vous ne voulez pas avoir Olam Haba? Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, mais j'aurais bien voulu avoir, mais malheureusement, il n'y aura pas. Eh bien, il aura surprise, il y aura bien Olam Haba après. Non, ce monsieur, c'est comme s'il dit, je ne veux pas avoir Olam Haba parce que je sais que Dieu ne donnera pas. C'est tout ça, c'est un bluff. Il donne pas. Il va contre ce que le judaïsme a transmis et il dit aux gens, arrêtez de croire à Olam Haba. À Omer, Ein Kriyat Minyan Torah. C'est-à-dire quoi, à Omer, ce qui dit? Le Chora, la Mishnah, il aurait dû dire, Mi She'eino Yodea She'eish Kriyat Mitim. Un homme qui ne sait pas qu'il y a du Kriyat Mitim, il n'aura pas. Mais non, ce n'est pas marqué dans la Mishnah. Il ne sait pas, il aura quand même Olam Haba. Mais Haomer, ce qui dit, c'est-à-dire quoi il dit? Il parle à lui-même, alors il pense. Si tu parles à toi, tu penses. Si tu dis, tu vas chez ton voisin, tu vas chez ton fils, tu vas dans la communauté, et tu dis, non, c'est faux, le judaïsme n'a jamais promis Olam Haba. Vous vous trompez tous. Moi, je sais qu'il n'y a pas d'Olam Haba. Ah, alors le peuple juif se trompe. Vous vous trompez tous. Alors garde-les pour toi, monsieur. Alors vous pouvez les garder pour vous, vos idées, monsieur. Nous voulons croire. Pourquoi vous nous racontez ce que vous dites? Non, je ne veux pas que vous croyiez. En quoi ça vous gêne si nous croyons? Eh bien, vous êtes des imbéciles. Mais si je veux être un imbécile? Vous voulez être les imbéciles heureux. Tous les juifs veulent être les imbéciles heureux. Ça vous gêne? Oui, ça me gêne. Parce qu'il n'y a pas. Il veut quoi, ce monsieur? Il veut affaiblir le judaïsme. Il veut le détruire. Parce qu'il sait que tous les juifs, ils sont attachés au judaïsme. On fait les mitzvot, l'espoir d'Olam Haba. C'est basique. C'est savoir qu'il y a une justice. Et de bonnes actions sont récompensées et Dieu ne récompense pas les mitzvot dans ce monde. On ne fait pas les mitzvot pour ce monde. On va mourir pour le judaïsme. pour faire quoi? Hachem, il a promis le monde en bas. Lui veut détruire. C'est quelqu'un qui veut détruire le judaïsme. Il dit aux gens, arrêtez de croire. Alors les gens, ils vont dire, on veut vous faire plaisir. D'accord, on ne va plus croire en Olamaba, mais on va continuer à faire des mitzvot. Là, lui, il a déjà gagné. Parce qu'il sait très bien que s'il détruit les émouna des juifs dans l'Olamaba, après, ça va s'arrêter. Et ça, c'était le chemin des tzedoukim. Les tzedoukim, les sadduciens, étaient des juifs qui ne voulaient pas faire Torah en mitzvot. Et ils ont dit aux gens, on a reçu la Torah à Sinaï, on fait la Torah, mais il n'y aura pas Olamaba. Après, à fur et à mesure que ça continuait, les sadduciens, ils faisaient toujours moins de judaïsme. Parce que c'est mécanique. Quand un homme, on lui détruit sa émouna olam haba, donc tout est olam hazé, eh bien, je cherche olam hazé. Comme il dit le père Abba de Rabbi Nathan, les sadduciens, ils cherchaient que olam hazé. L'argent, l'or, le pouvoir, la politique, ils ne cherchaient pas du judaïsme. Pour eux, c'était les valeurs de ce monde. Et c'est logique. S'il n'y a pas d'Olam Haba, mais la nature de l'homme, il veut lui être récompensé. Mais si on n'est pas récompensé dans l'autre monde, il me faut dans ce monde. Donc, on cherche ce monde. En vérité, toute leur pensée était dans ce monde. Et dans ce cas-là, ce n'est pas important si on fait les mitzvot. Parce que même si la Torah nous dit on fait les mitzvot pour avoir le bien dans ce monde, eh bien, dans bien ce monde, il y a aussi d'autres possibilités d'arriver au bonheur. Je vais faire d'arvailler, je vais me mettre dans la politique, je vais avoir le pouvoir. Ils cherchaient la politique, ils cherchaient les régner. Même la part du judaïsme qu'ils faisaient, ils rentraient au Beth Amikdash, les Kohanim Gdolim, ils étaient des Tzdoukim. Ce n'était pas pour Dieu, pas parce que ça les intéressait, ça ne les intéressait pas. Mais au Beth Amikdash, il y avait de l'honneur. Beth Amikdash, il y avait du pouvoir. Le Kohen Gadol était lié avec les Romains. Il y avait de l'argent au Beth Amikdash. Beaucoup, beaucoup d'argent dans le Beth Amikdash. Les Juifs, ils offraient beaucoup d'argent au Beth Amikdash. Ceux qui étaient Kohen Gadol, il a pu mettre ses hommes au Beth Amikdash. Des gens qu'ils ont gérés. Tout le monde connaît l'histoire, dont Flavius, de Hashmonaïm. Il y a beaucoup d'histoires des Kohen Gadolim. Qui étaient des voleurs et des gangsters, ils ont dévié l'argent, ils ont pris l'argent pour eux, ils payaient à des voyous et ils payaient aux Romains des millions de pièces en or. Pour l'histoire de Hashmonaïm, les véreux, même quand ils se sont mêlés dans le judaïsme, dans la pratique du judaïsme, ça a été en vérité, c'est la magouille et la politique qui les intéressaient. C'est ça les sadduciens, comme ça dit Marc Abad Rabbi Nathan. Ça, c'est le sens. Il dit, je vous dis, ça n'existait pas dans le judaïsme. Mais si on regarde un peu plus près ce texte, alors, à Omer, en triyemetim min ha-Torah. Ça veut dire quoi, min ha-Torah? Le roi, la Mishnah, il aurait dû dire, en triyemetim bat-Torah, dans la Torah, dans le judaïsme. Dans les paroles de Dieu, il n'y a pas d'Olam Haba. Mais ce n'est pas ça que le Mishnah dit. C'est marqué « Entriatimitim min » de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens, il est ici, Torah, c'est Torah chez Bichtav. La triatimitim n'est pas écrit dans la Torah écrite. Vous, les Juifs, vous, les rabbins, vous les dites oralement. Vous dites que vous possédez une tradition orale d'Olam Haba. Mais le texte de Chumash ne l'affirme nulle part. C'est encore plus malin. C'est pas. Non, j'ai pas dit qu'il n'y a pas d'Olam Haba. Vous voulez croire à Olam Haba? Croyez toujours. Mais sachez que le public sache, ça n'est marqué nulle part dans la Torah écrite. Ceux qui disent ça, il n'aura pas d'Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Ça change quoi? Si le Olam Haba est qu'une tradition orale ou c'est écrit dans le texte, ça change quoi? C'est parce que quand on détruit un yesod, une base dans les emuna, de ce qui est oui marqué dans le texte, et on lui dit c'est que oral, on affaiblit ça chez les juifs. Parce que tous les juifs savent Il y a une Torah écrite et une Torah orale, mais la Torah orale se base sur la Torah écrite. Ça veut dire, la Torah écrite, elle est très très courte. La Torah orale, elle est 100 fois, 1000 fois plus longue. La Torah, c'est marqué avec très peu de mots. La Torah nous dit, 7 jours, vous vous asseyez dans la soukha. Pour se rappeler, la sortie d'Égypte, vous vous asseyez dans une soukha. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est une soukha. La Torah orale te dit ce qu'est une soukha. Un soukha, il a besoin d'avoir des murs, et ont été des murs, et les grandeurs, et les hauteurs, et comment il est le toit. Qu'est-ce que dire habiter? Est-ce que c'est habiter le jour ou c'est la nuit? Est-ce qu'on peut sortir pour aller à la toilette? Est-ce qu'on peut sortir pour se promener? Ça veut dire quoi? On habite tous les détails de cette mitzvah. La Torah nous dit, le hot al yadecha ou le tetofot benenecha. La sortie d'Égypte doit être un hot, comme signe al yadecha sur ta main, ou le zikaron benenecha, comme souvenir entre tes yeux, ou le totafot entre tes yeux. Ça veut dire quoi? Nous savons que c'est des tfilines. Pour les tfilines, il faut étudier des milliers de halakhot. Chaque lettre, comment on écrit, comment ça se fabrique. La Torah, c'est court. Comme ça, toujours la Torah. Elle dit un mot, après à l'explication orale de tout ça. Mais chaque chose dans la Torah orale se base sur la Torah écrite. Quand quelqu'un, il vient, il dit, vous vous trompez, juif. Jamais la Torah écrite n'a parlé du monde futur. Ça ne reste que les rabbins qui disent. Et alors, eh ben, les rabbins qui disent. Il le dit évidemment avec un air de se moquer. Que les rabbins vous le racontent. Il faut, ça veut dire en d'autres termes, il ne faut pas croire aux rabbins. Il veut affaiblir la émouna des juifs. Et ça, c'est le travail des tzdoukim. Ils ne voulaient pas écouter ce que les chachamim disent, ils ne voulaient pas détruire toute la Torah, mais on ne peut pas détruire la Torah d'un coup, comme il dit le Rambam. Les gens qui ne croient pas à la Torah, ils ne peuvent pas la détruire d'un coup. Personne ne va les suivre. Et tzdoukim, Tzadok, il a dit, si je dis au peuple, à mes élèves, que je ne crois pas à la Torah, je suis foutu. Plus personne ne va me suivre. Je vais dire, oui, je crois à la Torah, mais certaines choses que les rabbins ils disent, ça, je ne crois pas. C'est eux qui déforment. Et je ne veux pas ces déformations. Et doucement, c'est comme ça, devenu, après tout, ces hérésies dans le judaïsme. Il dit que la Torah n'est pas minal. La triatémétim n'est pas basée sur un texte de la Torah. Alors, il veut détruire cette émouna. Ça veut dire qu'il fait, en vérité, la guerre contre la Torah. C'est un homme qui est meisit umediach. C'est un homme qui veut détacher le judaïsme de la religion. Il veut détruire la religion. Il commence avec quelque chose qui est fondamental. Quelque chose qu'il sait que pour les juifs, pour être attachés à la Torah, eh bien, la émouna en olam haba, c'est basique. Et ça aide terriblement pour un juif de faire la Torah. Un homme, il est pauvre, il peut voler. Non, tu ne voles pas. Et si je fais un vol, j'ai 1 million. Et s'il ne vole pas, c'est un pauvre type. C'est immense, les Yetzirah. C'est immense, les Yetzirah. Mais je ne le fais pas. Mais tu es bête. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que la police. Fais maintenant un coup, la police ne va pas écouter. Mais à Kadosh Baruch Hu, il va. Alors, qu'est-ce que ça change? Mais il peut te enlever après ces millions. Il peut m'enlever, mais moi, je fais attention qu'il ne m'enlève pas. Oui, mais d'où tu sais? Mais si maintenant je n'ai pas la million et que j'ai 1 million après, on verra qu'est-ce qu'on va faire. On va me débrouiller. Mais tu perds ton monde futur. Monde futur, je n'y crois pas. Ah, il n'y a pas Olam Haba. Eh bien, les gens, ils vont aller voler. Mais évidemment, s'il n'y a pas d'Olam Haba, les Yetzirara, ils peuvent travailler pour détruire les gens. Ils peuvent détruire la religion s'il n'y a pas d'Olam Haba. C'est pour ça, ce monsieur-là, Omer Intritin et Torah, c'est un homme qui veut détruire le judaïsme. Et c'est pour ça qu'il n'aura pas d'Olam Haba. La deuxième chose, Ve'in Torah min Hashamayim. Il dit que la Torah ne vient pas du ciel. Alors, elle vient d'où? Elle vient des humains. Ça veut dire quoi, des humains? Quel humain? Je ne sais pas. La Torah, il y a une Torah, oui. Et la Torah, elle est écrite. Et les rabbins et les juifs, ils interprètent. Il y a Souka, il y a Lulav, il y a Etrog. Vous êtes d'accord avec la Torah? Bien sûr, je suis d'accord. Et la Torah, elle existe. Mais la racine, mais d'où elle vient? Du ciel? C'est-à-dire quoi, du ciel? De Dieu? C'est-à-dire par prophétie? Non, c'est pas par prophétie. Alors, par comment? C'est des humains qui l'ont fabriqué. Qui? Je ne sais pas. Peut-être Moshe, Aaron. où Moshe et Aaron n'ont pas existé, c'est des figures légendaires, ou plus tard, des rabbins, des gens qu'on prenait pour des prophètes, ou des rabbins plus tard, il y a 500 ans, il y a 1000, il y a 2000 ans, je ne sais pas, les gens, ils ont fabriqué une Torah. Mais il faut la faire ou pas? Les humains, il y a des humains qui ont dit qu'il faut la faire. Mais elle vous plaît ou pas? Il ne dit pas. Elle peut dire oui, elle me plaît, ou elle ne me plaît pas. Et s'il dit, elle est merveilleuse la Torah, ah oui, elle est forte, ah oui, il y a des idées géniales, ton prochain, et ceux qui veulent, il faut payer. Elle est géniale la Torah. Ça ne sert absolument rien. Si quelqu'un il veut faire passer cette idée à Omer, il manque ici les mots Haomer, mais le Haomer, il y a deux points. Il faut lire la Mishnah. Haomer, deux points. Un, entrée et timitim et Torah. Virgule. Ventor Menisha, je veux dire Haomer, il dit Entor Menishamaim. Il dit aux gens, sachez que la Torah ne vient pas du ciel. Elle était fabriquée par les humains. Elle est fabriquée par les humains. Même s'il va dire, l'histoire n'est pas fausse. C'est vrai que c'est vrai ce qui est marqué, mais c'est pas, c'est Moshe qui l'a écrit tout seul ou à quelqu'un d'autre. La Torah n'est pas du ciel. Et ça, ça veut dire que ça, tu détruis le judaïsme. Ça, c'est la destruction. Tout ce qui est humain, les humains, d'abord, je ne suis pas obligé de leur écouter. Pourquoi je suis obligé d'écouter les rabbins autrefois? Si ce n'est pas Dieu qui me l'a dit. Mais eux, ils étaient plus intelligents que toi. Oui, mais pourquoi je suis obligé de les écouter? Et qui me dit qu'ils sont intelligents? Et peut-être ils ont divagué un peu. Mais même s'ils ont trouvé juste après leur philosophie, maintenant on pense autrement. On peut tout faire. Du moment que la Torah ne vient pas du ciel, s'il réussit à faire passer cette idée, la Torah ne vient pas du ciel, elle est détruite. Et cet homme-là, il veut détruire le judaïsme. Mais on voit dans la Gemara, c'est beaucoup plus grave que pas seulement il dit que rien de la Torah vient du ciel. Un homme, il peut dire, bon, c'est un peu exagéré. Si j'ai dit rien vient du ciel, rien, que tout est faux, Har Sinai, tout ça, ça c'est faux, tout ça c'est une légende. Un homme qui dit tout ça, il dit rien n'est vrai. Il se fait jeter de la choule directement. Ah, puis quand il reste, dégage. Tu ne crois pas, hérétique, on ne parle plus avec toi. Il va perdre son influence. Alors, il y a des gens qui sont plus malins. Il dit, non, je ne veux pas dire que tout est faux. Je suis d'accord. Oui, oui, il y avait les Juifs, ils étaient au Har Sinaï, ils sont sortis d'Égypte. Mais bon, mais pas tous les textes viennent de Dieu. C'est un texte qui est composé un peu par Moshe, peut-être Dieu il a dit quelque chose. Et Dieu il a dit je suis Dieu 10 ans. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Oui, je suis d'accord. Bon, il a dit de pas tuer. Bon, 10 ans, ça va aussi. Il y a des choses, mais pas tout. Il faut pas prendre tout. Et ben ça aussi veut détruire le judaïsme. Ça aussi c'est la destruction. Et pas seulement s'il avoue un petit peu, et même s'il va avouer la moitié. Et même s'il va avouer la majorité. Mais un peu, Moshe Rabbeinu, il a écrit de lui-même. Un peu. Ça a aussi détruit le judaïsme. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit que tout était écrit par Moshe et qu'Hachem, il a dit, tu vas écrire toute cette Torah. Tikhtov et ta Torah azot. Tikra et ta Torah azot. Vichtov Moshe. Kol divrei ha Torah azot al sefer atumam. Dieu lui dit, écris cette Torah. Il a écrit toute cette Torah. Si après une partie de cette Torah, Dieu ne lui a pas dit, Moshe Rabbeinu l'a écrit de lui-même. Ok, un peu de magouille. Là, il y a un peu de magouille. Tout est cassé. Tout est... S'il y a un peu de magouille, c'est un menteur. Si on fait rentrer cette idée dans la tête des gens qui a un peu été écrit par Moshe, ça va, ce poison, il va avancer. Un serpent qui mord dans le talon. Et quand il mord dans le talon, il ne mord pas dans le cœur, il ne mord pas dans le cerveau. Il mord dans le talon et l'injecte 2 gouttelettes de coronavirus. C'est intéressant, ce coronavirus, il est 1 millionième d'un millimètre. Il y en a un homme en Chine qui avait un million d'un millimètre, un truc, et il a empesté le monde entier. Un phénomène, comment le bon Dieu veut désorganiser le monde. Il n'a pas besoin de 1 000 tonnes. C'est comme on dit, Moshe Rabbeinu, il a pris Piyar Kifshan, il a pris dans sa main une main pleine de Piyar Kifshan, de suif de four, il a jeté l'Eretz Mitzrayim, et toi, Eretz Mitzrayim, était malade. Et quand tu veux empester, il faut avoir 10 tonnes, il faut verser 10 tonnes de poudre infectée. Mais non, il a pris une poignée, et ça suffit. Je n'ai jamais compris comment ça fonctionne maintenant avec ce Coran. On voit. On n'a pas besoin d'une tonne. Un tout petit 1 mg, il peut, le monde entier peut empester. C'est comme ça. Alors, pour revenir ici, la Gemara dit plus que ça. On verra après dans la Gemara. Même un homme qui dit, tout le texte est écrit par Moshe Rabbeinu, mais la Torah orale ne vient pas de Moshe Rabbeinu. La Torah orale, ça c'est les rabbins qu'ils ont fabriqué. Ou même s'il dit, la moitié de la Torah, Moshe Rabbeinu a reçu de Dieu. L'autre moitié des rabbins, ils ont inventé. Et ils ont dit que tout il vient de Dieu. Ils ont dit toutes les règles de l'interprétation, ils ont reçu les règles. Ce n'est pas vrai, Dieu n'a pas donné toutes ces règles. Celui dit que tous les textes sont bien écrits par Hachem et dictés à Moshe, sauf un verset. Un verset, Moshe écrit de lui-même. L'expression Achot, Lotan, Timna. La sœur de Lotan était Madame Timna. Ça, c'est Moshe Rabbeinu, il écrit de lui-même. Lui aussi fait partie en Torah Min HaShemayim. En vérité, en quoi ça nous change? Alors, il y a beaucoup d'idées ici. Premièrement, si un verset, les Juifs y croient que c'est Dieu, il a dicté, et c'est Moshe. Donc, Moshe, il a menti dans un verset. Si Moshe est un menteur, demain, il est menteur sur 2 à 3, où il va se décrouler. C'est comme ça. Il y a des fois, on a des noix qui sont comme ça dans un état de empilé et un équilibre. Tu prends une noix au milieu, une boule, tu enlèves, tout s'écroule. Il y a des choses comme ça. Une boule, tu enlèves, le binyan, il s'écroule. Il y a des jeux comme ça les jeux sur l'ordinateur, sur les petits iPhones, on fait des boules comme ça. Les gens, tu enlèves une boule, tout s'écroule. La Torah, c'est un ensemble génial. Ceux qui s'attaquent, ils disent, ça, c'est pas Dieu, à la fin, tout s'écroule. Eh bien, c'est exactement ce que ce monsieur dit. En Torah min haShamayim. Mais on va prendre d'abord le pshat. Toute la Torah ne vient pas du ciel. C'est les humains, ils ont fabriqué. Donc, tu veux détruire le judaïsme. Ce qui dit en Torah min haShamayim, alors, c'est aussi, il est à côté. Mais il le dit, c'est-à-dire quoi il le dit? Ce n'est pas marqué dans la Mishnah, il croit. Si bien maintenant il croit que ce n'est pas Min HaShemayim, parce qu'il n'a même pas vérifié, il ne sait pas, il y a des ignorants. Ils arrivent, je dis, c'est quoi? Ça c'est bien du ciel? Ah, je ne sais pas, prouvez-moi. Tant qu'un homme, il ne s'est pas occupé de savoir, évidemment que c'est bien Min HaShemayim, mais il n'a pas du tout les moyens de le savoir. N'a pas étudié le sujet. C'est un shogeg. Un shogeg. Est-ce qu'il a Olam Haba ou pas? Normalement, on dit toujours, on fait un avira b'shogeg. Alors, on fait un avira b'shogeg. C'est... Dieu peut plus facilement pardonner. On fait un Hailul Shabbat b'shogeg. On fait un Korban Khatat. On est Prayer Mita. Un homme, il... B'shogeg. B'shogeg, ça diminue beaucoup la gravité. Si maintenant un homme, Beshogeg, il dit apatriotisme de la Torah, ou Beshogeg, il dit que la Torah ne vient pas du ciel, parce qu'il ne sait pas. Alors, c'est une Sheila. Il connaît pas les bases de la Torah Beshogeg. Quel din on lui donne? Sheila, très amouka. Est-ce qu'on veut dire, mais la Mahasé, il ne croit pas au judaïsme, mais il ne croit pas Beshogeg. Est-ce que ça le prive de l'Olam Haba? On peut dire dans la Mishnah que quoi? Qu'il a mis Olam Haba. La Mishnah parle de quelqu'un qui peut-être même lui dans le cœur, il y croit. Mais il ne veut pas faire la Torah, il veut détacher les Juifs à Omer, il dit. Pas il le pense dans le cœur. Peut-être dans le cœur, il sait que c'est vivre la Torah. mais il veut pas la faire, donc il empêche l'entourage, il dit aux gens, la Torah vient pas du ciel, parce qu'il veut détruire le judaïsme, il veut détacher les juifs. Peut-être lui-même dans le cœur, il y croit, il le sait, mais il lutte contre ça. Il dit que la Torah n'est pas Minashamayim. Ou peut-être il n'y croit pas. Et pourquoi il n'y croit pas? Parce qu'il ne veut pas y croire. Il ne veut pas y croire. Il y a des gens, ils savent que c'est comme ça, mais je ne veux pas croire. Ça ne m'intéresse pas de croire. Et ils détruisent chez eux cet émouna et il les dit même aux autres. Ve'en Torah Minashamayim. Vapikores, un apikores. Qu'est-ce que c'est apikores? C'est un mot, c'est pas un mot hébreu. Apikores, ça n'existe pas en hébreu, ce mot-là. C'est un mot roumain ou grec. Ous, ça finit apikorous. C'est ous quand c'est fini avec ous, et c'est bien des grecs. Qu'est-ce que ça représente ce mot? Mais pas tout, en hébreu, c'est, il y a le mot hefker. Pays, ouf, resh. Il y a le pays, ouf, resh. Picor. Picor, c'est malachon. Hefker. Hefker. Soit hefker, ça veut dire abandonné, il n'y a pas de patron. Un objet hefker. C'est un objet qui appartient à personne. Alors hefker, c'est quelqu'un qui pense le monde est hefker. Et de quoi le monde est hefker? Le monde n'a pas de patron. Comment il n'a pas de patron? Il n'a jamais eu, ou il a abandonné, ou comme ça, ou comme ça. Ou le monde n'a jamais eu de, le monde n'a jamais eu de patron. Ou il a eu un patron, mais ce patron, il est parti. Disons qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, et il est parti aux vacances. Il a abandonné. Maintenant, faites avec le monde ce que vous voulez. Alors, il y avait chez les Grecs un homme qui s'appelait Épicure. C'est un philosophe grec. Épicure, hein, il est connu, il a écrit des livres, Monsieur Épicure, comme il y a Socrate, il y a Aristo, il y a Monsieur Épicure. Et dans ces livres de ce monsieur Épicure, l'idée maîtresse, une des idées maîtresses, c'est qu'il faut bien profiter de ce monde. Il faut bien manger, il faut bien kiffer, car il n'y a pas d'Olam Haba, il n'y a pas de Sahar. On ne vit qu'une fois. Ça, c'est les idées archi contre la Torah. Hefker, c'était abandonné. Soit que le monde n'a pas de patron, soit nous ne sommes pas obligés de tenir compte de ce patron parce qu'il nous a abandonné. Et dans ces apikores, il y a après beaucoup de détails. Ça va plus loin. Il ne croit pas du tout à Dieu. Ou il croit à Dieu, mais il méprise, il a une attitude de mépris vis-à-vis de tout ce qui est religieux, vis-à-vis de ce qui représente la religion. Et une des choses qui représente la religion, c'est les chachamim, c'est les sages, les tzadikim, les chachamim, les tzadikim, la classe supérieure du peuple juif. Et lui, il veut que le peuple ne les écoute pas. Alors, il parle mal d'eux. Il invente des choses sur eux. Il rigole, il tourne en dérision, c'est n'importe quoi. Soit qu'il peut attaquer personnellement le chacham de la ville, ou les chachamim de la ville, ou les chachamim de la génération, ou les chachamim d'il y a 50 ans, il y a 100 ans, ceux qui ont transmis la Torah au peuple juif. Il parle contre Chazal, ou contre les prophètes, ou contre les représentants de la religion dans sa ville, il leur fait la guerre. Il veut que les gens arrêtent de respecter le système de la religion. Ça c'est apikores. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit Av hakore bisfarim achitzonim. Aussi ceux qui lisent des livres chitzonim, extérieurs. Alors ici, ça veut dire quoi extérieur? Chitzon. Et c'est quoi le contraire de Hitson? Hitson, c'est Pnimi. Pnimi intérieur, les livres intérieurs et les livres extérieurs. Alors, il y a plusieurs degrés, différentes lectures ici dans la Mishnah. Pas de Pashut, le livre intérieur, c'est intérieur au judaïsme. Tous les livres qui sont à l'intérieur du judaïsme, qui commentent le judaïsme, des Mefarshim, des Mishnayot, des Midrashim, ou dépenser. Comme nous, on a dit, on a beaucoup de livres, et ils sont à l'intérieur du cadre du judaïsme. Maintenant, il y a chitzonim, ils sont à l'extérieur du cadre. C'est-à-dire quoi, à l'extérieur du cadre? Un livre de botanique? Un livre de physique? Non, ça c'est autre chose. Ce qui lit un livre de physique, c'est pas ça que Mishnah parle. Le livre de physique, il n'est pas en concurrence ni en contradiction avec la Torah. C'est pas du tout. J'écris une lettre, comment il faut réparer ta voiture, c'est pas le pasfarim chitzonim. Chitzonim, ça veut dire, ce sont des livres religion, des livres de pensée religieuse qui sont en dehors du cadre de la Torah. Ça veut dire en dehors, c'est-à-dire qu'ils se contredisent, qui attaquent la Torah. Il philosophe que ce qui le lit, il fait dévier le lecteur de la Emunah dans la Torah, dans la pratique religieuse. Chitzonim, ils sont justement à l'extérieur de ce que Chachamim, ils ont dit, ça c'est le judaïsme ou pas. Maintenant, un autre pshat, plus loin, qui va plus loin, il y a dans les Écritures, nous avons 24 livres du Tanakh. On a Moshe Rabbeinu écrit 5 livres, Al Dicté par Hachem. Après les livres de Yeshua, Shoftim, Shmuel, Melachim. Et après, il y a les prophètes, il y a presque les 12 petits prophètes. Après, il y a les Ktuvim. Ça, c'est Sifre et Kodesh. Sifre et Kodesh, ce sont tous des Sfarim que les prophètes et les Chachamim, ils ont vérifié chaque mot. Il y avait Ruach HaKodesh qui était choré sur ce qu'eux, ils ont décidé, qu'ils ont écrit, comment ils ont vu les choses, Kitu HaKodesh. Mais il y avait encore d'autres lettres, il y a encore d'autres livres. Alors, ils ont dit, c'est pas écrit Ruach HaKodesh. C'est des gens qui ont écrit, ils sont peut-être gentils, et peut-être c'est juste, mais on ne sait pas si c'est Ruach HaKodesh. C'était pas Ruach HaKodesh. Ils peuvent s'introduire des taoyot. Et quand ils peuvent s'introduire des taoyot, nous ne prenons pas de responsabilité. Ces livres, on n'a pas le droit de les prendre pour Kitve HaKodesh. C'est une chokma, c'est des commentaires de la Torah, et un rav, il ajoute un commentaire, ils peuvent se tromper, mais ce n'est pas écrit pour Ruach HaKodesh, il ne faut pas se tromper. Et il ne faut pas les prendre Sfarim Chitzonim. Il y a un livre qui était écrit, la Gemara nous raconte, d'un homme qui s'appelait Ben Sira. Ben Sira, d'après certains, c'est le petit-fils d'Irémanavi, d'après l'autre, c'est le petit-fils du petit-fils d'Ir. C'était un poète, un homme qui disait de Moussard, et a une grande intelligence dedans. Mais il n'est pas, Chachamim n'ont pas fait rentrer dans le Kituah, c'est pas Ruach HaKodesh. Maintenant, on a le droit de le lire, évidemment. Mais tous les Amoraïm, ils l'ont connu. On va dans tout le travers de chasse, comme il est marqué dans Sefer Ben Sira, comme il est marqué dans Ben Sira, mais il ne faut pas le considérer comme trop d'importance. Il ne faut pas faire de lui une étude comme on fait une étude dans tout ce qui est Ruach HaKodesh. On donne trop importance à quelque chose. C'est du Bitul Torah et ça déforme la Torah. Et ça, le Rabbi Akiva dit « Af akure besfarim chitzonim » À l'extrême, même ce qui fait de Ben Sira un livre à Ruach HaKodesh, il y avait toutes sortes de livres après avec des idées farfelues. On le fait passer par de Ruach HaKodesh. Et ça, on n'a pas le droit. Est-ce que pour ça, on n'a pas fait le Kolam Haba? C'est un peu étonnant. Bien sûr, on parle de quelqu'un qui cherche la chose avec l'intention de détruire le judaïsme. Des fois, c'est très fin. Rabbi Akiva dit, il y a des gens qui utilisent des livres qui sont proches du judaïsme, on leur donne trop d'importance. En vérité, avec ça, on veut détruire le judaïsme. Et ça peut amener à la fin de perdre Olam Haba. Ici, bien sûr, dans Rabbi Akiva, le pshat n'est pas tout de suite quand un homme l'a fait. Tout de suite, il a perdu Olam Haba. Ça dépend, bien sûr, jusqu'à où il est allé. Ça veut dire que c'est un chemin qui amène à la fin à l'abandon du judaïsme. Ça amène à la fin à l'abandon. C'est un chemin qui peut écarter après les gens de Olam Haba. Après, la Mishnah nous dit Halochesh al Hamaka. Un homme qui chuchote, il fait une formule de Akadabra, il fait comme ça des formules magiques à la Maka sur une blessure. L'Omer, il dit Toutes les maladies que j'ai mises en Égypte, je ne mets pas sur toi, car moi, je suis ton médecin. Qu'est-ce que c'est comme histoire? C'est qu'un homme, il se blessait la main. Alors, s'est gonflé, une infection. Alors, il faut guérir. Alors, il arrive un juif, un chaman, et il dit, moi, je guéris. Comment vous guérissez? Un médicament? Non, moi, je n'ai pas besoin de médicament. Pas besoin de médicament? Non, 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 non. Un couteau pour ouvrir, pour faire sortir le pus. Mais non, pas du tout comme ça. Moi, je n'ai pas de couteau. Moi, je n'ai pas de médicament. Alors, comment vous allez guérir? Moi, j'utilise la religion. J'ai des psukim. Donnez-moi votre main qui est blessée. Et ce monsieur, il met la main à côté de sa bouche et il murmure. La maladie d'Égypte. Alors les gens, ils disent, c'est merveilleux. Psh, la religion, ça fonctionne comme ça. Et le type, il est guéri. Et Rabbi Akiva, il dit, oulala, il y a un problème ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais où est le problème? Soit le pshat, il est, comme la Rambam dit, il transforme la Torah en gris-gris. En vérité, la Torah a été donnée pour guérir les âmes. Mais lui, il utilise la Torah pour guérir le corps. La Torah n'est pas pour guérir le corps. Maintenant, dans la Torah, il y a beaucoup de sgoulottes. Beaucoup de sgoulottes. La Torah, Bémet, elle donne la vie. La Torah, elle a une puissance. Alors, qu'est-ce qui est du mal si un homme, il va croire qu'avec ce verset, on peut guérir? Mais il y a ici quelque chose, un trafic. On trafique la religion. Ça devient un ersatz. On parle ici d'un homme qui a un système où il veut, où il prêche aux gens, la religion, ça a été donné pour les petits bobos. Comme il existe beaucoup dans toutes les nations, dans toutes les religions, ça existe. Et c'est possible qu'en vérité, il manque ici aussi quelque chose dans la Mishnah. La Mishnah fait allusion à ce qui s'est passé à l'époque de Rabbi Akiva. À l'époque de Rabbi Akiva, il y avait les chrétiens, c'est connu dans leur livret, que les élèves de l'autre, ceux qui accueillent leur religion, ils faisaient des formules pour guérir les gens. Avec des serpents qu'ils ont mordus, des hommes, ils sont amenés chez lui, il a fait des formules religion, il a fait des exorcismes. Guérir, c'est une formule pour capter l'intérêt des gens, et les gens après restent attachés à cet homme. La Gemara nous raconte le Abou Dazara, que Rabbi Ishmael, il avait un neveu, et ce neveu, il se fait mordre par un serpent. Alors, il se fait mordre par un serpent vénéneux. Est venu un monsieur qui s'appelait Jacob le mine, Jacob le chrétien, à Pécoires. Et Jacob, il est venu et le neveu, il a dit, « Tonton, il veut me guérir. Est-ce que je peux me laisser guérir par lui ou pas ?» Rabbi Shmuel, il dit, « Non, il ne faut pas. Mieux vaut mourir et pas se faire guérir par lui. » Et il ne s'est pas laissé guérir. Et les Niftar. Tosfot, il explique là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a du mal? Ce monsieur était médecin. Un médecin qui n'est pas croyant. On ne peut pas aller chez lui. On peut aller chez lui. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Tosfot, il dit, il est venu avec une formule magique en nom de croire en fabricant de leur religion. Il est venu, Beshem, Yoshkel, en nom de l'autre. Ça veut dire, il a mis la main sur le truc. Il dit, voilà, une formule magique. Au nom de Yoshke, je vous guéris. Et ça guérissait les gens. Il y a une médecine parallèle. Il y a la médecine parallèle. Il y a des formules magiques. Il y a un peu de la magie, un peu de trucs psychologiques, un peu, je ne sais pas comment ça marche. Ça a toujours existé. Des gens qui ont fait des petits micmacs. Et là, Tosot, il dit, une fois que cet homme-là il va guérir, les gens ils vont être attachés à cet homme. Cet homme il va recevoir le prestige. Avec ce prestige, les gens ils vont croire en lui, il va fabriquer une nouvelle religion. Et ça, c'est la Gemara raconte sur ça que Rabbi Shmuel il dit à son neveu, mieux vaut mourir et tu ne fais pas guérir un homme qui guérit en nom d'un rachat, d'un apicurus, on utilise un truc magique. C'est possible. Rabbi Akiva aussi pensait à ça. Le Cheshalamaka, c'est le début d'un système. C'est un début d'un système qui détache les gens de la vraie religion. Maintenant, je ne sais pas jusqu'à où il faut vraiment. C'est tellement grave. La Gemara raconte s'il crache. On verra un coup plus tard. Alors, Cheshalamaka, ici même, il n'utilise qu'un pasuk de la Torah. Il n'utilise pas un nom d'Avodazara. Il n'utilise que le nom de la Torah. Mais ça aussi, c'est une introduction. Ça pourrait être une introduction à un autre système. D'abord, un pasuk de la Torah, et après, on ajoute une autre formule. Abba Shaul Omer, Abba Shaul, il a dit, Av Haruge et Hashem Be'otiotav. Aussi celui qui prononce le nom de Dieu Be'otiotav avec ses lettres. Alors là, à première vue, c'est du mysticisme pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est marqué dans la Torah, Yudke Vavke, le nom de Dieu. Des fois, Dieu, il est marqué Aleph Dalet Nun Yud. Des fois, il y a Aleph Lamet. Des fois, il y a Aleph Lamet He Yud Mem, Elohim, etc. Dieu, il a des différents noms. Maintenant, quand il est marqué dans la Torah, Yudke Vavke, nous ne prononçons pas comme ça. On le dit avec Aleph Dalet Nun Yud. Mais les voyelles, on utilise comme ça aurait été marqué en Yudke Vavke. On n'a pas le droit de prononcer le Yud Kevavke avec les lettres Yud Kevavke et la ponctuation telle qu'il est marquée dans la Torah. C'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Ça, il y a un secret. Il y a bien sûr une grande philosophie dedans. Quel est le sens de Yud Kevavke? Hayar ou Bébillé? Alef Dalet Nun Yud, c'est le patron, c'est le maître. Nous n'avons pas le droit de prononcer comme il est vraiment, seulement vis-à-vis qu'il est notre patron. Écrit, c'est écrit Yudke Vavke. C'est le vrai nom d'Hachem. Qu'est-ce que vraiment il est? Comment il se présente dans le monde Yudke Vavke? On n'a pas le droit de le prononcer. Prononcer, c'est trop faire trop de publicité. Et publicité, c'est Aleph Dalet Nun Yud, c'est ton patron. Lui, c'est le patron et nous sommes ses esclaves. On n'a pas le droit de prononcer la chose. Alors, c'est une longue, longue, longue théologie. Qu'est-ce que c'est? Et au Bet Amigdash, on avait le droit de le prononcer. Le Kohen Gadol avait le droit de le prononcer au Bet Amigdash. Comme un com de prophétie, comme un com d'une grande Kedusha, il y a un grand Madriga, les gens qui entendent ça, en tremblant, alors ça fait du bien. Mais en dehors de ce cadre, ça fait du mal. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui sont très fins, très puissants, ils doivent être donnés dans un protocole très, très serré, dans des conditions très serrées. Quand ça sort de ce cadre, ils font des catastrophes. Ici, il y a un secret théologique qu'il y a dedans et il ne faut pas toucher ça. Arogé, ce qui prononce est Hachem Boti Otav. Pour nous, à première vue, quand on lit ça, on ne voit pas très bien. Ça rime à quoi? Je veux comme ça, ça change quoi? Pour le simple, c'est. Mais la Mishnah nous dit, ne touche pas ça. Parce que, bien sûr, la Kavana, elle est le secret qui est derrière. Alors, la Mishnah nous dit, Ahof, Shlosha Melachim, il y a trois rois dans la Tanakh, la Arba Hediotot, et quatre personnes qui n'étaient pas des rois, mais étaient des grandes personnalités dans la Tanakh, ils n'ont pas de part dans le monde futur. Alors, pour comprendre ça, il faut bien sûr connaître bien le Tanakh et l'histoire juive. Trois rois et quatre personnalités, des chachamim, des sages, des immenses têtes, et avec des mitzvot, et ils n'ont pas d'olam haba. Ve'elohen, voici, Shlosha Melachim, c'est qui? C'est Yerovam. Yerovam ben Nevat, qui est marqué dans le livre des Melachim, c'est le premier roi des 10 tribus après que la royauté a été partagée après que Shlomo Melech est niftar. Le prophète il est venu, il a dit à Shlomo, parce que tu avais trop de femmes, tu avais trop de chevaux, et bien qu'un des jours, il va te enlever une partie de la royauté, on va donner à quelqu'un d'autre sur 10 tribus, et toi, tu vas régner sur 2 tribus. Tout ça, c'est le prophète lui a dit. Et le prophète, il a nommé un homme qui s'appelle Yerovam ben Nevat, qui venait de la tribu de Yosef, comme roi. Et c'est Yerobam ben Nevot est devenu un pécheur. Il était un grand chacham, devenu un pécheur. Il a fait pécher le peuple juif. Il a trompé le peuple juif. On verra après dans le Perek, il faut connaître bien sûr le Tanakh. Après, la Gemara va nous expliquer en longuement comment c'est possible, qu'est-ce qu'il a fait exactement sur Yerobam ben Nevot. Le Kitzur, il est allé détruire le judaïsme du peuple juif. Et il a réussi partiellement. Le texte, le prophète, il répète plusieurs fois, les juifs sont partis en exil à cause de Khatot Yerobam ben Nevot, asher chata behecheti et Israël. Ce que lui, il a fauté, il a fait fauter les juifs. Achav, le deuxième Achav, le grand pécheur devant le Seigneur, connu dans la Tanakh, Achav, le grand roi qui a gagné toutes les guerres, qui est un homme extraordinaire, lui aussi, Khata Vecheti. Et le troisième, c'est Menaché, le roi Menaché. Ce n'est pas Menaché, le fils de Yosef, un tzadik. Non, lui, c'est un tzadik. Menaché, c'est un roi qui est le fils du roi Chizkia. Chizkia, le super tzadik, et Menaché était à côté de la plaque. Rabbi Yehuda dit, Menaché, yesh lo chelek lamaba. Menaché, il a vu une part dans le monde futur. Je n'ai pas carré un texte dans Divrayamim, va y t'paler les laves, que Menaché, il a prié vers Dieu, va y shma techinato. Et Dieu, il a écouté les paroles de Menaché. Va y shibé Yerushalayim le Malchuto, et Dieu l'a ramené à Yerushalayim dans son royaume, parce qu'il était d'abord exilé en Babylonie, les Goyim sont venus, et l'ont exilé Menaché, et après, il a pu revenir. Amourlo, mais les Chachamim, ils ont dit, les Malchuto Ishivo, c'est vrai que Dieu l'a ramené de nouveau pour être le roi, velo le Chaylom Abba. Mais les péchés étaient trop grands, il n'a pas de bar dans le monde futur. Bon, pour comprendre, bien sûr, il faut connaître le Tanakh, il faut connaître après, on verra ça au fur et à mesure. Alors, Arba Hediotot. Maintenant, il y en a quatre des gens, des grandes personnalités qui sont, qui n'ont pas très le Chaylom Abba, qui n'étaient pas de le roi. Un, c'est qui? C'est Bilam. Bilam, le grand prophète, eh bien, il n'a pas de part dans le monde futur tellement il était pervers. Mais c'était un goy. Donc, il n'a pas très le Olam Haba parce qu'il était pervers. Mais s'il n'avait été pas pervers, il aurait eu Olam Haba. Ici, on voit qu'un goy aussi peut avoir Olam Haba. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas juif qu'on n'a pas de Olam Haba. Un goy peut avoir Olam Haba. Il ne faut pas qu'il soit pervers. Lui était pervers. Le Doeg. Doeg, c'est Doeg Ha-Adomi. C'était un juif. Il s'appelle Adomi parce qu'il est né dans le pays Edom. Mais regardez, c'est un juif. Doeg Ha-Adomi, c'était un grand Chacham au Sanhedrin, un copain de Shaul HaMelech. Et ils l'ont voulu à David HaMelech. Il était malade. Il était jaloux que David HaMelech était le roi. Il n'avalait pas le fait, il était jaloux de la Torah, de la Ktusha, du Kavod, de tout ce que David HaMelech a fait. Ça le rendait malade et il essayait de le faire mourir. Celui qui a dit à Shaul HaMelech, le Kohen Gadol donnait du pain à David et Shaul HaMelech, il a tué après toute la famille du Kohen Gadol. Et il espérait aussi qu'il tue David. Il voulait que David tombe dans la main de Shaul. Achitophel. Achitophel, c'est le conseiller de David HaMelech, aussi est dans la Sanhedrin et aussi un stratège de guerre, la plus grosse tête stratège de guerre qui existe. Aussi, lui voulait aussi en voulu à David HaMelech, il a essayé de le tuer. Mais Gehazi, c'était le serviteur, c'était le potentiellement le successeur du prophète Elisha. Il a étudié à Elisha, c'est lui qui a géré la yeshiva d'Elisha. Et malheureusement, ce Gehazi aussi. Il a raté, il est devenu grave. Après, la Gemara va nous expliquer. D'accord. À demain, Bezrat Hashem.